Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant et parfois un peu trouble, la voyance en ligne. On a un dossier assez complet là-dessus qui analyse le phénomène, ses dangers, et puis aussi comment s'en protéger. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce dossier, de voir un peu les mécanismes de la voyance sur Internet. Ça va du simple chat aux appels surtaxés et surtout, on va essayer de trouver les clés pour naviguer là-dedans sans tomber dans les pièges.
Et c'est vrai que le numérique a, complètement bouleversé ce domaine. C'est devenu hyper accessible. Mais forcément, cette facilité d'accès, ça augmente aussi les risques potentiels. Ici, l'objectif, c'est vraiment de regarder les faits, les pratiques, sans juger la croyance en elle-même, mais plutôt avec un œil sur la protection des personnes.
Alors justement, concrètement, comment ça se passe ? Le dossier détaille les options qu'on connaît un peu. Le téléphone, le chat, les SMS, l'email et même l'audiotel, ce système sans carte bancaire.
C'est ça.
Le chat, par exemple, ça promet une réponse quasi immédiate. C'est pratique si on a une question rapide, non ?
Oui, en théorie. Mais chaque méthode a ses inconvénients, en fait. Le téléphone et l'audiotel, c'est souvent facturé à la minute et ça, ça peut coûter très très cher.
Ah oui.
Parfois même dès la mise en attente, attention. Le chat, oui, c'est rapide, mais ça peut aussi renforcer une espèce de culture de l'immédiateté. Ça court-circuite un peu la réflexion personnelle.
D'accord.
Et alors les SMS ? Méfiance. Ils sont souvent présentés comme économiques, mais en réalité, ils peuvent cacher des coûts surtaxés énormes. Et puis, il y a les risques pour les données personnelles. C'est peut-être le format le plus piégeux financièrement.
Ah oui, les SMS, ça paraît rien, mais le dossier insiste bien là-dessus, sur ces coûts cachés. C'est assez vicieux comme système.
Tout à fait.
Et ça nous amène directement aux abus, parce que, bon, déballons ça. Un des points qui fait froid dans le dos dans le dossier, c'est l'ampleur du désastre financier que ça peut engendrer. On parle pas de quelques euros, là.
Non, non.
On a des témoignages de personnes qui se retrouvent endettées de milliers d'euros.
Absolument. Et au-delà de l'argent, il y a la manipulation psychologique. Le dossier décrit bien comment certains acteurs, peu scrupuleux, ciblent la détresse des gens. Ils créent une dépendance, parfois ils utilisent même le chantage affectif, ou des menaces de, je cite, « malédiction » pour pousser à consulter encore et encore. L'emprise sur des personnes vulnérables, c'est un risque majeur.
Face à ça, comment on fait ? Comment on repère les signaux d'alerte, les arnaques potentielles ?
Alors, le dossier est assez clair là-dessus. Il faut vraiment se méfier des promesses miracles, trop belles pour être vraies.
Oui.
La pression pour consulter plus, encore et encore, les demandes d'infos très personnelles, ou pire, les coordonnées bancaires complètes. Là, alerte rouge.
D'accord.
Il faut aussi faire attention aux coûts flous, aux services gratuits qui, hop, deviennent payants, aux discours culpabilisants aussi, et bien sûr les prédictions très vagues, celles qui pourraient coller à n'importe qui.
Le fameux effet Barnum.
C'est exactement ça, l'effet Barnum. Cette tendance qu'on a tous à trouver pertinente une description vague de personnalité en pensant qu'elle nous correspond spécifiquement.
Ok. Et face à ces dérives, est-ce qu'il y a un cadre légal, un garde-fou ? La loi dit quoi ?
C'est là que c'est intéressant. La voyance en soi n'est pas une profession réglementée en France. Pas de diplôme officiel requis.
Ah bon ?
Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est hors la loi. Elle doit respecter le droit de la consommation. Donc pas de pratique commerciale trompeuse.
D'accord.
L'escroquerie, l'abus de faiblesse, ça c'est puni par le code pénal. Et puis il y a toute la question des données personnelles qui est encadrée par le RGPD. Et un point important, interdiction formelle d'aborder les questions de santé.
Et qui est chargé de surveiller tout ça ? Qui contrôle ?
Alors il y a des organismes publics, la DGCCR, la répression des fraudes en gros, qui veillent au respect du droit de la consommation.
Oui.
Il y a la CNIL pour tout ce qui est données personnelles. D'ailleurs la CNIL a déjà mis des amendes assez lourdes à des sociétés de voyance pour ça.
Ah oui quand même.
Oui. Et puis, il existe des organisations professionnelles, type INAD ou SNPV, qui essaient de mettre en place des chartes éthiques. Mais bon, l'adhésion à ces chartes, elle est volontaire.
Et ce qui veut dire que la protection repose quand même beaucoup sur la vigilance de chacun, au final.
En grande partie, oui.
Un autre point qui m'a vraiment interpellé dans le dossier, c'est cette idée d'addiction à la voyance. On n'y pense pas forcément comme ça, mais c'est abordé très sérieusement.
Tout à fait. Cette recherche de réconfort ou de réponse immédiate face à l'anxiété, à l'incertitude, ça peut vraiment basculer. Ça devient une compulsion. Le mécanisme, en fait, il est assez similaire à d'autres addictions comportementales. Ça active le système de récompense dans le cerveau, cette pseudo-réponse rapide. Les signes qui doivent alerter, c'est les consultations qui s'enchaînent, même sans résultat concret, l'endettement, bien sûr, l'isolement, le fait de négliger ses responsabilités.
Et pour s'en sortir, quelles sont les pistes ?
Le dossier insiste beaucoup sur l'aide professionnelle. Des thérapeutes spécialisés dans les addictions, des psychologues, pour comprendre ce qui se joue derrière cette dépendance.
D'accord.
Ça pourrait être un outil de protection de plus.
Donc pour résumer, ce qu'on retire de cette plongée, la voyance en ligne, c'est un secteur très diversifié, très facile d'accès, mais clairement pas sans risque. Abus financiers, manipulation, addiction, la vigilance, l'esprit critique, c'est vraiment la clé.
Exactement. Et ça soulève une question qui va même au-delà de la voyance, je trouve. Dans notre société actuelle, avec cette quête permanente de réponses immédiates, souvent externes, via le numérique, comment on fait pour préserver notre capacité à naviguer dans l'incertitude, à faire confiance à notre propre jugement pour construire notre chemin ? C'est une vraie question, je pense, à méditer.